Futurama.
La décennie qui s'est écoulée entre la réélection de Vladimir Poutine à la présidence russe en 2012 et l'invasion de l'Ukraine en mars 2022 a changé la Russie et le monde. En 2012, Vladimir Poutine, contesté par des manifestants qu'il estime manipulés par l'Amérique, est à la tête d'un pays surclassé par l'Occident, humilié par Obama, et après l'annexion de la Crimée, sanctionné et isolé. 6 ans plus tard, le président russe semblait être parvenu à prendre sa revanche sur l'Occident. Il a déstabilisé le grand rival américain, influence les élections et les opinions occidentales, et s'est rendu incontournable en Syrie ou en Ukraine. Vous écoutez La Vengeance de Poutine, épisode 1.
C'est d'abord l'histoire d'une revanche. Celle d'un homme qui revient de loin, à la tête d'un pays qui revient de loin. En cette année 2012, Vladimir Poutine vient d'être réélu président pour un nouveau mandat de 6 ans. Depuis déjà 12 ans, l'ancien agent du KGB règne sur la Russie. En 12 ans, il a rétabli l'ordre dans un pays menacé d'effondrement. Muselé l'opposition, laissé assassiner plusieurs de ses figures, mis au pas les médias. C'est pourtant un homme au ton grave qui, les mâchoires serrées, prête serment. Le faste de la cérémonie lui sert à masquer la réalité. Il est affaibli comme jamais. Si les rues de Moscou ont été vidées, c'est pour éviter les débordements, qui y surviennent tout de même. Depuis des mois, dans tout le pays, les plus grandes manifestations depuis la chute de l'Union soviétique dénoncent des élections truquées et exigent le départ de Poutine. Avec la chute des cours du pétrole, la pauvreté explose et rend insupportable la corruption. Poutine lui-même est accusé d'être l'un des hommes les plus riches du monde. L'inquiétude saisit le maître du Kremlin, cloîtré dans son palais. Alors il contre-attaque, avec une méthode éprouvée. Dénoncer un complot de l'Occident, de l'Amérique, de la CIA. Ces propos de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, il les a découverts comme tous les Russes à la télévision la veille. Il les présente comme une déclaration de guerre.
Les pays qui s'opposent aux États-Unis, qui tentent de rester indépendants, sont soudainement pris pour cible.
Ça n'a aucun sens, c'est faux. Mais on a compris d'où ça venait.
Ikon Dyatko, journaliste russe indépendant.
C'est un héritage de la guerre froide. Comment pouvez-vous expliquer qu'une partie de votre propre peuple se révolte contre vous? Vous dites que ces gens sont des traîtres.
Je suis assez cynique pour penser que M. Poutine, étant donné ses capacités de renseignement, savait que les États-Unis et l'Occident n'étaient pas impliqués.
John Cypher, ancien chef d'antenne de la CIA à Moscou.
Mais il devait convaincre les Russes que le déclin économique et tous leurs problèmes avaient un responsable.
L'Occident ne les payait pas. Non.
Dimitri Trenin, ancien directeur du centre Carnegie à Moscou.
L'Occident leur offrait quelque chose de plus important, une sorte de modèle, une source d'inspiration. Poutine a vu cela comme un défi. Alors le libéralisme d'inspiration occidentale est devenu un ennemi. Il fallait l'endiguer.
Dès lors, Poutine s'efforce de mobiliser son peuple. L'ancien officier du KGB, formé à l'école communiste, se pose en protecteur des traditions russes face au modèle occidental.
C'est exactement comme si la Russie était devenue un château encerclé par des ennemis.
Tikhon Dyatko.
Et pour lutter contre eux, il faudrait tous se rassembler et s'unir autour de notre chef.
Cette catastrophe, selon Poutine, est la chute 20 ans plus tôt de l'Empire soviétique défait par l'Occident. Alors, à la Russie, il veut redonner son statut de puissance mondiale. Pour mener cette bataille, il réorganise son pouvoir. Il exclut les libéraux et s'entoure de durs. Ils viennent souvent, comme lui, des services secrets ou sont de fidèles oligarques. Son ami Vladimir Yakounine, ancien officier du KGB, richissime homme d'affaires et fervent croyant, devient l'un des membres du premier cercle qui conseille officieusement le président russe.
Après l'effondrement du système soviétique, il semblait qu'un conflit idéologique n'avait plus lieu d'être.
Vladimir Yakounine, personnalité publique et oligarque russe.
Mais quand quelqu'un décrète qu'il possède la vérité, lui seul et pour tout le monde, c'est de la domination. Et cela mène à une nouvelle guerre. Quel que soit son nom, guerre idéologique ou guerre froide.
Cette nouvelle guerre froide vise bien sûr le vainqueur de la précédente, l'Amérique, et son bras armé en Europe, l'OTAN. Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Alliance Atlantique a pris pied aux portes de la Russie, dans l'ancien précaré soviétique. La Pologne, la Roumanie ou les pays baltes, marqué par l'occupation soviétique, cherche sa protection. Et maintenant, l'heure est aux grandes manœuvres, car les discours nationalistes de Poutine inquiètent ses voisins. Les États-Unis projettent de déployer à travers l'Europe de l'Est une nouvelle arme à la pointe de la technologie. Un bouclier antimissile. Poutine y voit un insupportable défi à sa nouvelle volonté de puissance. Il vient affronter le camp occidental, au Mexique, à l'occasion d'un G20, un sommet économique où, une fois par an, se retrouvent les chefs d'État. En coulisses, ces sommets servent à se jauger, à négocier, à montrer ses forces. Ils sont l'équivalent moderne des champs de joutes où, autrefois, se défiaient les seigneurs.
Il vient avec la volonté de créer un nouveau rapport de force, même s'il n'est pas nécessairement en sa faveur.
François Hollande, ancien président de la République française.
Ce qui l'obsède à ce moment-là très précis et qui sera au cœur de notre entretien, c'est la défense antimissile que les États-Unis ont décidé d'organiser à l'est de l'Europe et qu'il perçoit comme un acte hostile.
L'OTAN est le système militaire et politique du monde occidental.
Vladimir Yakounine.
De ce point de vue, si la menace du communisme a disparu, notre question est toute simple. Pourquoi l'OTAN s'accroît-elle ?
Je lui fais comprendre que la défense antimissile ne doit pas être dirigée contre la Russie, mais doit protéger l'Europe d'éventuelles attaques venant de l'Iran, puisque c'est à ce moment-là que la menace peut paraître la plus sérieuse. Lui fait comme s'il n'était pas pleinement convaincu, et d'ailleurs essaye de montrer, dessin à l'appui, que la défense antimissile vise la Russie.
Poutine sait que l'Iran n'est qu'un prétexte. Mais il espère se faire entendre du vrai patron de l'OTAN, qu'il rencontre pour la première fois en tête-à-tête. En effet, Barack Obama a toujours affiché une volonté d'apaisement vis-à-vis de la Russie.
C'était une rencontre tendue, sans aucune chaleur.
Derek Chollet, ancien secrétaire adjoint à la Défense.
Poutine a longuement sermonné le président Obama sur tous les méfaits des États-Unis au cours des dernières années, à commencer par l'élargissement de l'OTAN sous l'administration Clinton.
Le président Obama a essayé de s'adresser à M. Poutine dans un esprit de logique.
Anthony Blinken, ancien conseiller de Barack Obama.
Mais cette logique n'était pas nécessairement partagée par M. Poutine.
Quand quelqu'un vous dit « Bon, écoutez, je fais venir mes tanks, mon matériel militaire dans votre arrière-cour. Mais restez calme, ce n'est pas dirigé contre vous. Vous le croiriez ?
Nous avions aussi un argument géopolitique.
Charles Kupchan, ancien conseiller de Barack Obama.
L'Occident devait pousser son avantage pour avancer vers l'Est, afin que la Pologne, la Hongrie ou l'Estonie restent hors de l'influence russe. Des États souverains devraient pouvoir choisir s'ils veulent ou pas faire partie de l'OTAN, s'ils veulent ou pas appartenir à l'Union européenne. Qui est la Russie pour leur dicter leur choix ?
Dès lors, le bouclier antimissile en Europe de l'Est est non négociable, lui dit Obama. La conférence de presse est glaciale. Au fond, aux yeux d'Obama, que pèse Poutine, à la tête d'une nation au PIB égal à celui de l'Espagne? La rencontre s'achève sur une mésentente entre les deux hommes.
Ils ne considéraient pas la Russie comme un partenaire égal. Bon ou pas bon, mais en tout cas égal. Ce comportement dénotait un sentiment de supériorité. Une manière de signifier « Vous n'êtes pas à mon niveau, alors filez droit. »
Je n'ai pas senti qu'il y avait une bonne relation entre le président Obama et Vladimir Poutine.
Léon Panetta, ancien secrétaire à la Défense et ancien directeur de la CIA.
Pour je ne sais quelle raison, leur rapport était mauvais. Je pense que cela a contribué à la dégradation des relations entre nos deux pays.
Poutine se sent méprisé par Obama. Un détail, mais qui compte à ses yeux. L'Américain n'a même pas essayé de dire un seul mot en russe, alors que lui, on a placé quelques-uns en anglais.
Si je connais deux mots en chinois ou en allemand, dans des négociations, je trouverai un moyen de les utiliser pour montrer mon respect.
L'humiliation, c'est vrai que c'est sans doute le fil conducteur psychologique de toute cette affaire.
Michel Elchaninov, journaliste et écrivain.
Ce sentiment supposé d'humiliation vis-à-vis d'un Occident qui aurait presque organisé la chute de l'URSS, en oubliant que l'URSS s'est effondrée quand même sous le poids de sa propre inefficacité.
Poutine est très russe. Les Russes ont un complexe d'infériorité.
Julia Ayov, journaliste à The Atlantic.
L'Occident ne nous prend pas au sérieux. Il nous considère comme une sorte de petit frère attardé qu'on peut maltraiter et insulter en permanence. Ils ont constitué une grande puissance à l'égal des États-Unis. Et maintenant, plus personne ne les écoute.
Non seulement les Occidentaux ne l'écoutent pas, mais partout, ils avancent leurs pions. En Syrie, en cet été 2012, un vieil allié de la Russie, Bachar el-Assad, est confronté à un soulèvement. Ses opposants sont armés par l'Europe et les États-Unis. Pour Poutine, pas de doute. L'Occident ourdit un changement de régime. Comme en Irak en 2003, comme en Libye, où Kadhafi vient d'être assassiné.
Quand Vladimir Poutine a obtenu la vidéo de l'assassinat de Kadhafi, il l'a regardée en boucle et l'a regardée encore et encore. Apparemment, il en a fait de même avec la vidéo de l'exécution de Saddam Hussein. Il a pris tout ça très personnellement.
Je pense que Poutine l'a regardée en se disant que quand on s'oppose aux États-Unis,
Dimitri Trenin.
Qu'il y a un vrai combat, une vraie confrontation. On ne doit s'attendre à aucune clémence.
À Poutine, ces printemps arabes rappellent singulièrement les manifestations contre lui quelques mois plus tôt. Alors, pour contrer les Occidentaux en Syrie, il soutient à bout de bras un régime au bord de l'effondrement. Mais le 21 août 2013, survient un événement qui, pour Poutine, va changer la donne. Son allié syrien bombarde un quartier tenu par l'opposition avec des armes chimiques. Si Poutine conteste les faits, c'est que Barack Obama, un an plus tôt, a annoncé une ligne rouge. Toute attaque chimique du régime entraînerait une riposte militaire. Son allié syrien pourrait chuter. Le 31 août, Français et Américains informent la Russie d'une intervention imminente.
Nous savions que les Russes étaient sur le terrain.
Derek Chollet.
Nous les avons fortement incités à mettre leur personnel en sécurité, car en cas de frappe, ils étaient vulnérables.
Moi, mon interprétation, justement, du rapport de force, c'est que la Russie, sur le plan militaire, elle n'était pas en situation de réagir.
Ensuite, le président américain, quelques heures, c'est vraiment une question d'heures, avant que l'attaque coordonnée soit déclenchée.
Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères.
Appelle le président français en lui disant c'est difficile, il faut que je consulte, etc. Bon, bref, la ligne rouge, il n'y en avait plus.
Obama redoute de s'engager dans un nouveau conflit. Poutine, lui, comprend que cette Amérique n'est peut-être qu'un tigre de papier. Au G20 de Saint-Pétersbourg, qui a lieu 4 jours plus tard, il exploite sans coup férir le recul de son adversaire.
Aux yeux de tous, il y a des conversations qui s'engagent entre Barack Obama et Vladimir Poutine.
À Obama, Poutine fait une offre que l'Américain n'est plus en position de refuser. Contraindre son allié syrien à renoncer à ses armes chimiques.
Alors que c'est eux, très largement, qui avaient fourni des armes chimiques dans le passé aux Syriens.
Laurent Fabius.
Ils apparaissent, du coup, comme les sauveurs. Alors qu'au départ, le président Poutine avait une mauvaise paire de sept dans les mains, comme étant capable, au fond, de renverser la donne.
Monsieur Obama a été trop sûr de lui.
Konstantin Kozachev, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement russe.
Il a cru que le régime syrien était si faible qu'il pouvait être renversé facilement.
Grâce à ce coup diplomatique, une intervention occidentale en Syrie n'a plus lieu d'être. Et Poutine perçoit surtout, leçon capitale, le talon d'Achille de son adversaire américain.
Les Russes, à Saint-Pétersbourg, comprennent au quart de tour, M. Poutine est intelligent, très intelligent même, que, au fond, si le président des États-Unis s'étant engagé publiquement, en cas de ligne rouge, à réagir et à frapper, ne le fait pas, ça jette certaines interrogations sur beaucoup d'autres engagements.
Il me semble que le président russe a senti que le président Obama ne voulait pas faire usage de la force militaire.
Evelyne Farkas, directrice des affaires russes au Pentagone.
Le fait qu'il ne fasse pas respecter sa propre ligne rouge a été interprété par beaucoup comme une faiblesse, en particulier par le président Poutine. Après cela, je crois qu'il ne le craignait absolument plus.
Ce sentiment pèsera grandement au cours de l'hiver suivant.
Vous venez d'écouter un épisode réservé aux abonnés de Docurama. Vous pouvez écouter tous nos autres podcasts documentaires sur docurama.audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée. La Vengeance de Poutine est un podcast coproduit par Initial Studio et Galaxy Press, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Galaxy Press. Cet épisode a été écrit et réalisé par Alexis Vitkin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.